Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du temps de l'apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du temps de l'apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme. Ouais.
Et bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce 48e Instant Sport avec le retour dans l'élite des commentateurs sportifs de Luc Crespon. Salut Luc.
Bonjour tout le monde.
Alors j'ai entendu dire qu'avec ton compère du basket Aurélien Lacaze, tu es allé voir un match de rugby hier.
Absolument, nous faisions partie des gens qui ont établi le nouveau record d'affluence du stade Marcel Michelin voilà. À Clermont-Ferrand.
Des 18 730 spectateurs.
Car sans nous, le record n'aurait pas été battu.
Très bien. Oui. Beau match, Clermont a gagné.
Ouais, bon match. On n'était pas vraiment côté Clermontois, mais bon, bah, Clermont a gagné quand même.
On a vu du jeu, deux essais de chaque côté. Ça a été un match très agréable à suivre.
Malgré le brouillard.
Malgré le brouillard, c'était juste
le chemin du retour.
Voilà, mais justement, on va nous parler de cette troisième mi-temps ou cette première mi-temps, ou cette avant-première mi-temps plutôt, Aurélien. C'était bien, ça s'est bien passé ?
Ça s'est très bien passé, effectivement. Il n'y a pas eu de troisième mi-temps, puisque non. De suite après le match, on est rentré. Ça a été surtout la veille.
On a fait un bon avant-match, bonne préparation de match.
Ok, salut, Patrick est également là. Du sport ce week-end pour toi, Patrick ?
Non, j'étais pas en Lozère ce week-end. Bonjour à toutes et à tous.
Alors repos ce week-end, tu n'as même pas allumé la télé j'espère.
Si, le week-end a d'ailleurs commencé par un tout petit cauchemar, mais bon, on est habitué cette saison.
Ouais, on va en reparler. Salut Laurent, moi j'imagine que tu n'as pas fait de sport vu que l'équipe 3 de l'AFL n'a pas réussi à s'imposer au Malzieu.
Bonjour tout le monde, j'y étais.
Comment ?
Mais, parce que c'est comme ça, le sport on ne peut pas toujours gagner. Et puis un score équitable qui paraît logique vu l'engagement qu'a mis l'équipe du Malzieu.
Et ouais, sur son beau stade du Gévaudan. Non, je sais pas comment il s'appelle.
Le stade du Malzieu, je pense, stade olympique.
Allez, par contre, tu vas encore devoir t'excuser si tu dis des choses comme ça.
Non, j'ai rien dit. Je voulais passer un bonjour à une auditrice qui s'appelle Juliane, qui a aimé la musique la semaine dernière. Donc messieurs, essayez de faire aussi bien.
Eh bien, écoute, c'est Aurélien qui a choisi la pause musicale, on verra tout à l'heure. Je salue aussi Angélique, moi, de mon côté, ça fait longtemps que je ne l'ai pas saluée, donc voilà, au passage.
Oui, moi aussi, d'ailleurs.
Ouais, toi aussi. Ouais. Une nouvelle semaine sportive lozérienne avec encore des excellents résultats cette semaine, hein, que dire. Et on démarre, bien entendu, Patrick, par le volley et le retour dans l'élite du MVL après sa victoire contre l'Arago de 7, 3-7-0, 25-23, 25-22 et 25-23. Donc c'est fini, Mende ne peut plus être rejoint. Explication avec le classement, capitaine.
Alors, pour le volley, Mende est premier avec 31 points, deuxième Alès 19 points, troisième Monaco 18 et quatrième Toulouse 18 points également.
Patrick, on a l'impression cette année de n'avoir jamais douté.
C'est vrai, on a eu une interrogation entre les deux phases. On ne savait pas trop ce que nous réservaient les équipes de l'autre poule et finalement, elles se révèlent inférieur, il faut le dire, aux équipes qu'on a jouées en première phase. Le classement le montre. C'est vrai qu'on visait Monaco, puis Monaco finalement n'a pas été à la hauteur de cette deuxième phase. Tant mieux pour les Lozériens. On peut parler d'exploit, hein, parce que tu es sûr de monter à trois journées de la fin. Et puis Aurélie vient de le dire, il y a un écart quand même assez énorme entre le premier et le second, puisque tu as 12 points. Donc 12 points, c'est l'équivalent de 4 victoires. Chapeau au club du MVL qui a su rebondir après une descente. Bon, en plus, on se souvient des circonstances. C'est joué sur un seul match contre Mérignac qui t'aurait permis de faire les playoffs l'année dernière. Finalement, tu as fait les playdowns et tu as basculé en 1-2. Donc, c'est joué à pas grand chose. Voilà, les dirigeants ont fait un pari, hein, un effectif court en quantité, mais avec beaucoup de qualité. Ça a payé puisqu'il n'y a eu aucun joueur majeur qui s'est blessé gravement tout au long de la saison. Félicitations à tout le monde. Et maintenant, le plus dur commence parce qu'il va falloir garder ces joueurs, voire même se renforcer, parce qu'on sait, on l'a vu, hein, puisque Mende connaît ce troisième niveau qu'on appelle l'élite ou N1. Il y a quand même un écart entre les deux divisions.
Ouais, mais c'est un peu ce que disait Patrick, c'est que maintenant, l'avantage c'est qu'ils peuvent déjà préparer la saison prochaine parce qu'ils savent déjà qu'ils seront en élite la saison prochaine, que ce soit au niveau de l'effectif et j'imagine aussi au niveau du budget parce que les budgets sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est bien à un mois quasiment avant la fin du championnat d'être tranquille, de pouvoir se consacrer sur l'effectif de l'année prochaine, sur la préparation de cette saison. Et puis souligner quand même que c'est un parcours quasiment sans faute. Une défaite, hein, j'ai pas le nombre de 7 perdus, mais il doit pas y en avoir beaucoup.
D'ailleurs, ils ont perdu aucun match cette année-ci.
Une défaite.
Ouais, une défaite.
Contre Puy-Gouzon,
la fameuse défaite contre 3-2, je crois.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Le nombre de 7 perdus, ça doit être famélique aussi. Ouais. Voilà, c'est quand même une belle saison, bel exploit.
Ça fait 2 victoires en 3-2, une contre Arles et une contre 7 d'ailleurs au match aller. Et sinon après c'est quasiment que des 3-0. Hein.
Dis ta connerie, Laurent.
Non, je dis rien.
Je te vois sourire.
Je dis que ce mot famélique, on l'avait jamais employé.
C'est vrai.
Un an et demi d'émission, et bravo.
Ouais. Ouais, on en apprend tous les jours.
En fait, c'est un peu comme le basket. Vous pouvez préparer votre prochaine saison à 3 journées de la fin aussi. C'est comme le volley.
C'est à peu près la même configuration, ouais. Un petit peu inversé, mais sinon, on est dans la même optique. Hein.
Ouais. Comment il y a donc maintenant, c'est clair. Il y a Mende qui monte.
Ouais.
Et c'est tout.
Ouais.
Donc c'est fini.
C'est pour ça que la défaite de Monaco ce week-end n'est pas surprenante. Ils ont perdu 3-0 à Toulouse. Mais Monaco sait depuis le week-end dernier sa défaite à Mende qu'ils n'ont quasiment plus aucune chance de monter. Donc je pense qu'ils ont dû se déplacer à Toulouse avec une motivation complètement en berne.
Vraiment un cataclysme pour que Monaco puisse rattraper le MVL après le week-end.
Donc c'est quand même un sport bizarre et une fédération bizarre, puisque donc cette poule de play-off dans laquelle est Mende, maintenant tous les matchs, donc il y a
quand même
3 journées, voilà, tous les matchs sont pour du beurre, et ça fait quand même des déplacements énormes pour les équipes. Hein. Bon voilà, je sais pas, ça paraît quand même assez surprenant, parce que même dans les autres sports, même si la montée est réglée, bon ben il y a quand même
d'autres jeux
après pour la descente ou pour d'autres choses, alors que là ben toutes les équipes sont sûres de se maintenir en N2 et donc
il y en a qui est sûre de monter,
voilà,
ça sert à rien. Là.
Voilà, tu joues pour l'honneur, essayer de finir second.
Il y a une clause dans la fédération qui dit que dans de telles conditions, ils peuvent le faire à la pétanque.
Non, mais c'est vrai,
quand on voit
une telle avance, qu'on se dit, ils ont passé combien de journées en play-off? 3, 4 matchs ils ont eu là? 4 matchs seulement, ou 5?
Là, tu as fait 4 matchs aller, plus 1-5, donc ça fait 5 journées.
5 journées, ouais. Voilà. Au bout de 5 journées, c'est fini.
5 journées sur 8.
C'est ça.
J'étais samedi à ce match, on peut en reparler, parce que c'est quand même l'Arago 7 qui est avant-dernier, composé que de petits jeunes de 17 à 22 ans, donc c'est les futurs cracks.
C'est la réserve, la première qui est en tête de
Ligue 1.
Parce qu'ils ont bien tenu hein, quand même ces petits jeunes.
Oui, il y a eu que des...
Toi, t'as pas vu trop le match.
Si, il y a eu que 2 points d'écart. Non, je suis arrivé à l'heure cette fois-ci.
Oui, mais tu parlais avec tes voisines.
Et donc, ça a été serré, mais le man de volleyball n'a jamais stressé, à part Christian sur le côté, sinon les joueurs étaient peinards.
Christian stresse tout le temps, de toute façon.
Oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à 2-7 à 0. Donc, il devait y avoir 24-23 pour nous. Il n'était pas sûr encore de monter. c'est pas fait, quoi. Et donc, bref. Sinon, ça a été un beau match. C'est vrai que les garçons n'ont pas stressé, malgré que c'était serré. On parlait de Carlos Anthony la semaine dernière. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un crack.
Ouais, il nous a pas écouté, hein, parce que j'ai lancé un appel.
Ouais.
Ouais, pas de nouvelles. Non, c'est pas grave.
Et donc, voilà.
Il a pas ton numéro, je crois.
Ouais. Bel effectif, bonne ambiance. C'était une belle soirée. Quoi.
Ils ont bien fêté la montée sur le terrain à la fin du match.
Oui. Ben, ils ont, je crois qu'ils ont l'habitude de faire. Une petite mise en scène là pour eux et pour le public. Et voilà.
Pas plus, quoi.
Non, pas plus. Il n'y avait pas les pom-pom girls. C'était un peu comme au PSG hier soir.
C'est ce que j'allais te dire. C'était un peu comme le tour d'honneur du PSG.
Ouais, ils auront eu le temps de faire les choses un plus grand, certainement, au dernier match à domicile.
Bon.
C'est vrai que l'enjeu maintenant, c'est de quoi il servait cette ossature après une telle saison il y a déjà des contacts, certains joueurs
Garçon comme Carlos Anthony, il doit sûrement, enfin je crois que déjà à la base il est venu là un peu pour se refaire la santé,
c'est ça après sa grave blessure au genou,
il y a quand même un autre enjeu, c'est de terminer champion de France. Le club il tient énormément à cet objectif.
C'est vrai, tu fais bien de le préciser.
Ils vont pas complètement se relâcher, je pense. Ils vont peut-être en profiter pour faire jouer les joueurs qui ont moins joué, les petits jeunes. Mais sinon, ils vont rester concentrés, c'est sûr. Et puis, je pense pas que ce soit la philosophie de Constant de jouer peinard cool jusqu'à la fin.
C'est vrai ce qu'on disait. Maintenant, le plus gros de la saison, maintenant, c'est pour les dirigeants. Monter un budget et monter une équipe pour l'année prochaine.
C'est pas le même budget. Et deux, si tu veux garder des joueurs, c'est encore un budget supérieur. Ouais, c'est compliqué.
Exactement. Tu risques de jouer contre Alès. Alès que tu as vu jouer en Coupe de France. Bon, même si Alès domine outrageusement cette division, est-ce qu'ils vont monter ? On connaît les soucis financiers. Est-ce que la Ligue va les maintenir en élite ? Voilà, il y a des clubs historiques du volley français qui jouent ce troisième niveau national. Il y a Avignon aussi qui va faire les playoffs, mais qui n'a quasiment plus aucune chance d'être dans les premiers après les playoffs, puisqu'ils ont énormément de retard par rapport justement à Alès ou Strasbourg, et par rapport aussi au club de l'autre poule. Il y a 3-4 ans, si tu avais dit que tu avais une chance de jouer contre la première d'Avignon, qui à l'époque était en Ligue A, personne aurait pu imaginer un tel scénario. Et pourtant, tu risques l'année prochaine de jouer contre ces clubs-là.
Après, j'imagine que le but sera de construire une équipe qui soit capable justement de se qualifier pour les playoffs et pas revivre la saison de l'année dernière en élite. Parce que bon, on va clairement dire, je pense pas qu'il soit pour l'instant dans les objectifs du monde volleyball de monter en Ligue B.
On se souvient que le club avait, avant la saison dernière où ils étaient déjà en élite, assuré qu'ils ne voulaient pas monter, puisque la fédération oblige les clubs à dire est-ce que vous voulez monter ou pas en Ligue, c'est-à-dire au niveau professionnel, la saison d'après.
Partie des joyeusetés de la fédération française de voler avec ses calendriers un petit peu originaux, et savoir qu'en début de saison, il y a des clubs qui ne monteront pas.
Bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une question à se poser. Alors bon, c'est vrai que c'est compliqué, c'est très bien qu'on ait une restriction budgétaire de tous les côtés, mais bon, je cite souvent quand je parle avec les dirigeants du club de volley, je prends l'exemple de Chaumont. Bon, Chaumont, il y a 25 000 habitants, c'est à peu près le double de demande, et bon, voilà, Chaumont a fait le choix d'avoir un club de volleyball qui fait la renommée aussi bien de la ville mais aussi de tout un département. C'est vrai que c'est un département qui est sinistré au niveau du sport de haut niveau, et donc ils ont vu la chance d'avoir ce club de volley. Mais Chaumont est actuellement 3e ou 4e en Ligue A. Ils ont un entraîneur italien qui est une véritable légende de ce sport. Ils font la Coupe d'Europe, il y a un gymnase qui est c'est une des plus grosses ambiances de France. C'est le choix. C'est compliqué après de dire on met tout sur un sport, un département, une ville. Alors je dis pas qu'il faut faire ça, mais bon, voilà, il y a d'autres endroits où le choix est fait.
T'as la situation un peu inverse d'Alès où
il y a plus d'habitants.
Il y a plus d'habitants. Oui, il y a 40 000 habitants.
C'est le double.
Mais ils ont aussi à un moment fait un choix de se concentrer plutôt sur le volley à l'époque où le club de foot est descendu. Ils ont donc choisi le club de foot du coup qui est descendu en DH puis en DHR, là qui est en CFA2. Mais c'est vrai qu'ils ont préféré privilégier le volley à une époque qui est monté en Liga, qui n'a pas eu le même parcours que Chaumont, et on voit qu'aujourd'hui ils sont en grosse difficulté financière.
Arrêtez de donner des mauvaises idées. La municipalité demande. Il faut quand même qu'ils gardent un peu de monnaie pour le foot.
Pour le basket ? Ah, pardon.
Surtout qu'on va voir durant cette émission que ça marche chez beaucoup de sports
losériens. Tous les sports
le
basket.
C'est une année hors norme qui se précise pour les sports collectifs à Mandois, c'est sûr. Oui.
Moi j'ai une petite question. Est-ce que vous savez quelles sont les conditions pour être champion de France pour le MVL, comment ça marche?
Ben donc je pense qu'ils vont il y a deux autres poules, donc deux autres poules plus eux, donc ça fait trois. Mm-hmm. Donc je pense que les trois premiers après vont faire un tournoi
parce que ce qui s'était
final. Alors après, est-ce que Mande en principe se porte candidat pour organiser ce genre d'événement? Ils ont l'expérience, ils l'ont fait plusieurs fois. Après, c'est la fédération qui choisit, et donc après, c'est un tournoi, certainement,
moins, entre les trois équipements. Au moins deux fois, hein, me semble-t-il. Une fois à la Vernède et une fois à Piancourt.
Oui. Oui, parce que c'était un 1-3 et un 2.
Ouais, c'est ça.
Donc, au moins pour le club de Mende, ouais, comme tu disais, Laura, il y a encore un enjeu.
Oui.
Il y a une fin de saison qui s'annonce quand même avec un objectif assez élevé.
C'est ça. Un titre honorifique, mais bon, c'est vrai que sur un CV, bon, ça a de la gueule.
Ouais.
Allez, pour tous les sports, il y a de l'enjeu. L'équipe prénationale s'incline contre l'Arago 3-7-2 et reste 5e du classement. Et les filles continuent de gagner par 3-7-0, pendant que Béziers continue de gagner par 3-7-0, donc pas de changement, avec les filles de Béziers qui sont premières, 34 points, suivies des Mandoises, 31 points. La belle surprise du week-end est également à mettre du côté des rugbymen, avec une victoire sans appel contre Cruzy-Saint-Chinian, 25-0, qui permet aux Mandois de prendre la première place du classement. Pour le RCML, 3 essais, Tichit, Mathieu Evrard, une pénalité Vessade, 2 transformations Vessade et Tichit. Donc Mande des premiers 48 points, égalité avec Vinassant qui a également 48 points. Toche Corbière 43, Cruzy-Saint-Chinian 42, Nissan-Colombier 37, je m'arrête là. Alors j'ai l'impression, Luc, que la fantastique remontée du RCML coïncide également avec le retour à la compétition de l'entraîneur-joueur que nous avions reçu dans cette équipe, dans l'instant sport, Louis Morisson. Luc.
Oui, faut-il y voir effectivement un lien de cause à effet. C'est sûr que c'est un joueur qui a joué à très haut niveau, sur un poste où c'est bien d'avoir un joueur d'expérience. Mais c'est vrai qu'on va être honnête qu'il y a quelques semaines de ça, on n'aurait pas parié beaucoup sur la première place du RCML. Comme quoi, ça peut aller très 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 vite. Et ça peut aller très vite. Et du coup, effectivement, c'est quand même une bonne nouvelle de les retrouver en tête de ce championnat.
Ça fait 5 semaines d'affilée où le RCML ne perd pas, puisqu'il y a eu un match nul entre temps. Et donc, c'est vrai que tu as récapitulé les scores de ce week-end. Et bon, heureusement que Vinassant n'a pas marqué ce fameux bonus offensif, donc qui te permet d'être égalité avec ce club de Vinassant et finalement d'être premier. Alors là aussi, c'est assez particulier dans le rugby. Ça se joue. Alors, puisque tu as perdu le match aller, que tu as gagné le match retour avec chaque fois le bonus pour les deux équipes. Alors, d'après ce qu'on m'a raconté, ça se joue au nombre de semaines de suspension. Et donc, comme Vinassant a eu plus de semaines de suspension que Mende, c'est pour ça que Mende est premier.
Comment ça, semaine de suspension de joueurs?
Oui, des joueurs.
Ça se joue pas sur le goal average particulier?
Et non, puisque en fait, sur le terrain, toi, à Mende, tu as gagné avec le bonus offensif, et à Vinassant, tu as perdu, et Vinassant a marqué aussi le bonus offensif, donc ça, les deux s'équilibrent, forcément, et donc après, en cas d'égalité, il n'y a pas de goal average particulier ou
c'est
de goal average général, c'est le fair play, et donc Vinassant a été moins fair play que les Lozariens, puisqu'ils ont eu plus de suspension que les Mandois.
Si c'est encore là, égalité, c'est à la pointure du capitaine. À ce moment-là, le RCML est mal barré.
Heureusement qu'ils font pas ça avec l'équipe 3 de la FL et Laurent, hein, parce qu'on va faire plein, on serait mal. Hein.
Alors maintenant, il faut attendre le calendrier, parce qu'il va y avoir des play-offs au niveau du Languedoc, bien évidemment, et puis après, tu es qualifié aussi pour le championnat de France. Donc là, tu vas jouer contre, en principe, un club d'un autre comité.
Donc j'ai lu qu'ils étaient qualifiés automatiquement pour les demi-finales.
Oui, puisque tu as fini en tête de la poule, donc tu gagnes un tour par rapport
du champion du Languedoc.
Par rapport aux autres,
voilà. Oui, du Languedoc.
Ouais. Tu ne passes pas par les barrages, ouais.
Voilà. Est-ce que je me trompe en disant que le comité dans lequel se trouve Mende est quand même assez relevé en tant qu'équipe?
C'est un comité relevé, tu peux le dire. Languedoc, ben, c'est une terre de rugby à 15. Bon, tu vois bien tous ces clubs de l'Aude, de l'Hérault. Voilà, c'est vrai que c'est une confrontation quand même qui est élevée, et donc c'est une excellente performance pour les Mandois qui ont été un peu vexés d'après ce qu'on m'a dit justement. C'est vrai qu'on disait semaine après semaine qu'on était un peu déçus, par les performances, voilà, et surtout ce manque de victoire à l'extérieur, et donc ça les a un peu boostés, je pense, et donc une fin de phase de poule en boulet de canon. Et donc, maintenant, tous les espoirs sont permis pour essayer d'accéder à cette division d'honneur bon, qui était la division l'année dernière, puisqu'on sait que ben voilà, c'est le RCML est descendu en fin de saison dernière.
Voilà, j'ai entendu dire qu'il y a 2-3 piliers qui voulaient péter la gueule de Laurent, mais on y reviendra. Aurélien.
Non, moi je voulais rajouter aussi d'où l'importance aussi des bonus défensifs, oui. Puisque on se retrouve premier avec moins de victoires que Vinassant,
ouais,
et donc même sur les matchs qu'on perd à l'extérieur où on était quand même chercher des bonus défensifs, on voit que ça compte en fin de saison et que c'est hyper important.
Oui, parce qu'on a marqué en tout 10 bonus, aussi bien offensifs que défensifs, sur l'ensemble de la phase de poule, donc en 16 matchs. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc je crois que Vincent n'en a marqué que 4. Donc ça fait, comme tu dis, toute la différence en fin de poule.
On ne sait pas contre quel comité on va...
Ben là, non, tu vas jouer contre des clubs du Languedoc, ah, et après au championnat de France, je sais pas.
C'est du tirage au sort. C'est du tirage... Okay. Généralement, tu tombes sur les comités, ils vont peut-être tomber sur des clubs du comité du Roussillon,
Normandie, ou truc comme ça.
Le comité de Provence aussi. Le comité de Provence.
Ça va se jouer, je pense que ça va se jouer entre Provence et Roussillon. Puisque,
parce que dans le comité de Provence, il y a les clubs du Gard.
Les
clubs du Gard sont avec le comité de Provence.
Oui.
Non, Moselle, on ne peut pas ça.
Si, tu peux, mais
si, après.
C'est pas mal, Moselle.
Tu vas tomber deuxième,
tu vas tomber
16e, 8e,
4e. Il faut qu'ils trouvent les protos de rugby, parce que là, il doit pas avoir...
Si,
il n'y a pas d'équipe.
Il y a des clubs qui sont...
Ouais. Non, d'abord, tu vas tomber sur des plus proches. Ça peut être Languedoc, Provence, ou de l'autre côté, Midi-Pyrénées.
Ah, alors, les premiers matchs peuvent être plus difficiles que ceux d'après, finalement.
Ça dépend, parce que t'as quand même des le rugby, c'est un peu uniformisé.
Tu peux te retrouver au Pays Basque.
Tu te retrouves au Pays Basque.
C'est pas pareil.
Même en Provence, selon si tu tombes sur un club de la banlieue de Toulon, ça peut être compliqué.
Un club du Var.
Si tu tombes sur Saint-Sulpice avec Pirouipou.
Il y a des clubs du Vaucluse aussi. Bon, dans le Vaucluse, il y a une tradition de rugby. Bouches-du-Rhône aussi.
Bon. Et puis c'est pas tout à fait le même jeu Provence-Languedoc.
Ouais. Il y a un long chemin à parcourir encore.
Ouais.
Donc j'ai bien compris.
Oui, pour le championnat de France. Long. Mais pour le championnat du Languedoc, c'est
voilà, tout est possible pour essayer de monter en division d'honneur.
En tout cas, c'est vrai qu'on n'y croyait plus, il faut l'avouer, il y a quelques semaines. Vraiment, chapeau bas le RCML, parce que les retrouver à la première place après toutes ces victoires consécutives, c'est énorme. Alors, on va passer à quoi maintenant ? On va passer au handball avec un déplacement périlleux chez Palaja ce week-end pour les garçons du MGCI. Au final, tout s'est bien déroulé. Victoire 29-21, 15-10 à la mi-temps. Laurent, je ne sais pas si tu as eu des échos de ce déplacement.
J'ai pas eu spécialement des échos, si ce n'est que j'ai pu constater que l'enfant du pays, Fabien Marty, puisqu'il est de l'Aude là-bas...
Il revient bien là, Fabien.
A claqué 9 buts, donc bravo à lui. Robin Bartholome aussi 6 buts, donc c'est bien. On s'attendait à un match un peu piège, c'était quelques joueurs qui me l'avaient dit, c'est toujours compliqué d'aller à Palaja, et puis finalement bon voilà, il n'y a pas eu photo.
C'est vrai qu'il le craignait, ce déplacement
au finish, quoi.
Il le craignait beaucoup, ce déplacement à Palaja, terre un peu hostile, et je crois qu'il avait fait un bus d'ailleurs.
Oui, un bus gourmand.
Ouais, un bus gourmand.
Non, c'est vrai, ça avait l'air sympa. Ouais.
Pour encourager le MGC, c'est plutôt une bonne chose.
Alors, Patrick, on n'avait pas les autres résultats, toi tu les as eus.
Agde a gagné à domicile, je ne sais plus vraiment contre quelle équipe, mais.
Peu importe.
Donc, Mande conserve 2 victoires d'avance sur Agde.
Et Nîmes,
Nîmes a perdu 2 buts
contre
à l'extérieur.
Clermont-Salagou.
Donc Nîmes maintenant a 5 défaites, donc 4 défaites de plus que Mande. Donc a priori, Nîmes est maintenant hors course. Et donc il faut faire attention avec Agde, sachant qu'on n'a pas le gravage particulier sur Agde. Donc il faut par exemple, on parlait de matchs et Agde gagnerait tous ses matchs. Agde serait devant. Donc on a un seul joker. On peut perdre un match, en tablant sur le fait que Agde va gagner tous ses matchs. Donc il faut être vigilant. Il reste encore 6 matchs. Donc on est encore loin de la fin par rapport au volet.
T'as droit à une défaite et un nul.
Voilà, exactement.
Si Agde gagne tout.
Et le prochain match, c'est le 2 avril contre Aramon.
Qui est dernier au classement.
Donc, a priori, ça sera une formalité. Et puis,
il reste le déplacement au Cheminot Nîmois, même si c'est hors course, ça sera quand même compliqué.
Ça peut jouer quand même,
C'est pas encore fait, ça a de la gueule déjà. Mais
ça sent bon, mais bon.
Voilà, on va pas
faire attention. Ok, on passe au basket. Tiens, alors le basket n'a pas perdu, capitaine.
Non, on n'a pas perdu ce week-end.
C'est bien. Par contre, bon, vous n'avez pas joué, ça a été
c'est pour ça.
on va vite y passer, hein, parce que bon, vous n'avez pas joué, donc voilà. Juste pour dire que Mons-Rousson, vous les appelez comme vous voulez, a gagné à Moggio, et ça, ça arrange pas vos affaires. Qui a gagné pas d'un point, parce que moi j'ai 69-63 à Moggio. Toi, t'avais vu 64-63 ?
Ouais, c'est ça, il me semble.
Enfin bref, donc voilà, bon, ils ont maintenant donc, deux victoires de plus que vous.
Donc effectivement, ça fait pas nos affaires.
Vous pouvez plus les rattraper.
Puisque voilà,
sauf si ils perdent et vous gagnez.
On se disait que ce match retour à domicile contre eux pouvait faire basculer le classement et nous faire gagner une place justement en les doublant. Maintenant, c'est plus trop le cas. Il va falloir non seulement qu'on les gagne, mais qu'on essaie aussi d'aller arracher une victoire sur notre match.
Combien de matchs il vous reste à peu près ?
Il nous reste 5 matchs.
Ah ouais, donc c'est pas fini. Ouais.
Deux matchs à l'extérieur et 3 à domicile.
Tous les week-ends d'avril
sont remplis. Voilà, d'ailleurs ça approche parce que c'est en avril, vous avez entamé un entraînement spécifique pour ce match-là, hein, je crois, contre Rousson.
Pas du tout.
Mais vous devriez.
Non, on a le prochain match qui est le 2 avril.
Pas forcément que contre Rousson, on s'entraîne pour tous les matchs. Non, pareil.
C'est Rousson l'objectif, capitaine. On l'a non, dit, non, Rousson. Non, on non, vient non. tous, tout le monde vient, toute la ville.
Ah,
on
non, mais
on ouvre les tribunes.
Je suis d'accord avec tout, avec toi et on donnera tout. Mais non, il y a encore. Mais le week-end du 2 avril, on reçoit Vergès qui est 3e ou 4e au classement, il me semble. Donc voilà, ça va être l'objectif, ça va être aussi de se faire plaisir sur ce match, de mettre les choses en place qu'on voit à l'entraînement. Donc et c'est aussi sur les entraînements et sur ces matchs-là qu'on prépare le match contre Rousson. Ça okay. se joue là aussi.
2 avril, alors c'est noté. Allez, j'ai marqué sur mon papier, on continue avec les bonnes opérations, mais je vais changer, je vais dire on revient sur les bonnes opérations. Et la victoire de l'AFL contre Perpignan OC, 4-1, après un but de Perpignan à la 21e, un doublé de Gourma, 34-77e, Mboup, 81e, Diédou, 89e. Donc l'AFL qui garde ses deux victoires d'avance sur Narbonne, qui a gagné difficilement à domicile face à Carcassonne, 2-1. Au classement, 68 points pour Mende, 62 sur Narbonne, 56 sur Bagnols Saint-Clément, Perpignan qui a 55 mais qui a posé réclamation pour récupérer ses points qui lui ont été enlevés.
Et qui a un match en retard surtout.
Et qui a un match en retard, mais bon, ça paraît compliqué pour eux de récupérer ces points-là. Au final, je ne sais pas qui c'est qui veut parler. On redoutait un peu ce match de Perpignan parce qu'ils voulaient rester en course en se disant si jamais on nous remet nos points, etc., ils viennent pour gagner. Luc, 4-1, rien à dire.
Ça n'a pas été si simple que ça, hein, parce que ça s'est vraiment décanté sur la fin. D'ailleurs, c'est Perpignan qui a ouvert la marque, qui s'est créé pas mal d'occasions, des occasions franches. Il a fallu quand même toute la persévérance de l'AFL pour réussir à égaliser. Alors, je sais plus, il y a un des deux buts de Falil qui est vraiment magnifique. Je crois que c'est le deuxième là, qui vraiment les libère. Bon, après, derrière, le troisième but là d'Emboup qui arrive dans la foulée, mais ça a pas été aussi facile que ce que le score peut laisser croire.
Ouais, en effet, ça a été un match de très très haut niveau. Franchement, on s'est régalé. Beaucoup de stress parce que finalement le but de délivrance arrive qu'à la 77e minute, mais un gardien adverse qui a tout repoussé jusqu'à présent, il a fait des arrêts miraculeux. Ça a été un très très beau match. Il faut quand même souligner que Perpi était la meilleure défense, avait encaissé que 13 buts depuis le début de la saison. C'était la deuxième attaque après l'AFL, mais l'AFL était passé devant que le week-end d'avant avec sa victoire à Conques 5-1. Donc en face, c'était pas des rigolos, quoi. Et donc ça a été vraiment un très beau match. Il faut féliciter toute l'équipe. Les défenseurs ont été très vaillants parce qu'en fait, on parlait du jeu de l'AFL qui avait tendance à allonger il y a quelques semaines de ça. Là, je vous garantis qu'à Perpignan, ça allonge, mais du début à la fin. Les milieux terrain, ils regardent passer le ballon 10 mètres dessus.
Genre, on aurait dit Rennes
Avec Dembélé, ouais,
c'est ça. C'est ça.
Et, non, ils ont.
Ils ont fait quoi, Rennes, ce week-end?
Je sais pas. Non, mais on va rester sur.
Oui, je crois qu'il a joué.
Il était blessé. Sinon, à Perpignan, il y a une très bonne équipe. Et
Rennes
donc,
aussi.
Bravo à toute l'équipe de l'AFL. Donc, le prochain match, c'est le 3 avril à Carcassonne, en championnat. Donc, Carcassonne qui a perdu que 2-1 à Narbonne.
Ouais,
qui a pris un carton rouge, donc sera un peu moins en effectif. Mais voilà, ça va être encore un match très compliqué
et donc il va falloir le gagner, le prochain match de championnat, sachant que ce week-end, c'est la Coupe de la Région, dimanche à 18h.
On pourrait pas faire plus tard.
Voilà.
Toujours contre Perpignan.
C'est la même équipe.
Et vivement dimanche.
Après Stade 2, tu pourras venir voir le match.
C'est au moins 6 ans que j'ai pas vu Stade 2.
Et d'ailleurs,
tu as tort.
Oui.
D'ailleurs, on va signaler que donc l'autre demi-finale de Coupe de la Région opposera
Marvejols
à Uzès. Hein,
non. Béziers.
Béziers. Alors, on peut avoir une finale sans de la région, Coupe de la Région 100% lausérienne.
Avant que tu nous donnes le déroulé des matchs qui restent pour qu'on se fasse une plus grande idée, j'aimerais entendre Patrick sur cette victoire.
On se rend compte depuis quelques semaines, hein, il y a un réveil tonitruant de l'attaque mandoise qui marque but sur but. On a vu 4-0 contre Frontignan, 5-1 contre Conques, encore 4-1 contre Perpignan aussi. Donc c'est des scores quand même assez lourds. Et il y a eu un 5-2 contre Latte.
5-1 à Conques.
Voilà, donc on voit. Moi, j'ai l'impression quand même que cette équipe de l'AFL, depuis un mois et demi, c'est un rouleau compresseur. Parce qu'on se rend compte qu'elle peut être en difficulté en première mi-temps, voire même en début de deuxième mi-temps. Puis après, il y a des fins de match qui sont vraiment tonitruantes. Et donc, une avalanche de buts après qui contre les équipes adverses, et donc c'est quand même quelque chose de révélateur, et ça prouve que une maturité dans cette équipe. Voilà, le seul concurrent qui reste maintenant, c'est Narbonne, 6 points d'avance, donc 2 victoires d'avance à 5 journées de la fin. Il faut être vigilant, mais bon, le plus dur à mon avis est fait. Il faut confirmer tout ça, et ça sent bon pour ce CFA2.
Juste un point noir avant de faire passer Aurélien. Tu as eu des nouvelles, Luc, de Nabil.
Oui.
Il est blessé. Florent Fedel est blessé aussi. Donc,
oui, il jouait pas.
Le milieu de terrain est décimé.
Nabil Zanina, a priori, saison terminée.
Ça, c'est une mauvaise nouvelle.
Ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Même Fedel.
A priori, c'est réellement terminé.
Ouais, c'est réellement terminé.
Il y a Yann Combo qui jouait pas aussi.
Non, pour des raisons familiales.
Johan Robert a été obligé de jouer arrière gauche.
Bon, il a déjà fait cette saison d'ailleurs. Mais...
Alors, je voulais rebondir justement sur ce milieu de terrain qui était décimé, puisqu'il manquait Florian Fedel aussi. Ouais. Donc, c'est votre chouchou, messieurs, Dorian Robolosso. Qui a joué milieu défensif. Donc, il a créé un nouveau concept de poste, puisqu'il a joué autant libéraux qu'avant-centre. Il était partout. C'était vraiment impressionnant. C'est un garçon, on sait qu'il se donne beaucoup. Alors là, du coup, je peux vous garantir que ça s'est encore plus vu.
Il était milieu défensif, là.
Eh oui, il était dans l'entrejeu pour. Mais il sait tout faire.
Quand on est bon, on peut jouer partout. Hein.
Donc, à un moment, il est allé faire une retourne acrobatique dans la surface. Le temps que je retourne la tête, il était déjà replacé milieu défensif. Enfin, vraiment, c'est vraiment un guerrier, c'est un monstre. Je crois qu'il va finir, il peut jouer gardien aussi.
Ça fait pas un peu peur quand même, ce milieu de terrain décimé là, pour les matchs qui restent?
Ça a été un petit peu toute cette saison, ça a été ça. Il a fallu trouver des solutions un peu en défense, au milieu, en attaque, pour pallier aux blessures. Florian Fedel, on sait pour combien de temps il en a ou
Non.
D'accord.
Eh bien, Laurent.
Non, mais attendez, je ne sais pas lire dans les boules de cristal, messieurs.
Non, mais tu aurais pu dire, il y en a pour
eux. Sans cristal.
Une semaine, trois, enfin bref. Donc, ouais, mais je pense que ça on l'a vu notamment en défense avec Nicolas Andréot qui a dû dépanner en défense centrale. Johan Robert qui, là, fait des piges à l'arrière gauche.
Qui a fait un très très gros match aussi.
Voilà. Donc on.
Tiens, Benjamin Alveras qui est toujours blessé.
Il n'était pas revenu le week-end dernier.
Pas le week-end dernier, il y a trois semaines de ça.
Il y a Nicolas Brunel aussi. Nicolas Brunel aussi qui s'est blessé en réserve et qui a dépanné aussi cette saison en équipe première.
Ah, vous commencez ce qui fait peur, que Momo Adani était remplaçant en équipe première. Comme tu as dit, 37, 38 ans.
39 bientôt.
39, voilà.
Ouais, mais quand il rentre, il marque alors.
Non, mais là il est rentré, il a fait une passe décisive pour le dernier but. Voilà.
Allez, la question pertinente, l'analyse pertinente du capitaine, s'il vous plaît, Aurélien.
Non, moi je voulais. Je remarque juste encore que la différence se fait dans le dernier quart d'heure sur ce match. On avait déjà dit dans les émissions précédentes que c'était souvent le moment fort de l'AFL. Et effectivement, il le prouve encore une fois de plus. Donc, ça prouve une grande cohésion d'équipe, qu'ils ont du physique, qu'ils ont de la caisse. Donc, ça sent bon pour la suite, je trouve.
Puis tu as le retour en forme de Fadil. Hein. Bon, on se rend compte quand même, c'est le facteur X. Quand il marque, il est capable de faire des doublés quasiment tous les week-ends. Bon, mais c'est vrai que ça facilite quand même la tâche. Même si, bien sûr, c'est un collectif, il n'y a pas que lui. On est bien sûr d'accord avec ça. Mais quand tu as quand même un buteur qui est là et qui te débloque les situations, c'est quand même plus facile.
Ouais, allez, Luc, un dernier mot avant que Laurent prenne la parole pour savoir les matchs qui restent.
Peut-être aussi dire que les joueurs ont aussi peut-être mis un peu de temps avant de digérer l'arrivée du nouveau coach. C'est sa façon de travailler, son approche tactique. Je pense que là, ça y est, ils ont tout le monde a trouvé ses marques et ça commence à payer et on le voit. On disait tout à l'heure avec ce réveil de l'attaque.
Ah, ça marche bien. Les derniers matchs niveau but pris, but encaissé,
c'est impressionnant.
C'est bien. Hein, ça veut dire que pour le sprint final, ils sont prêts.
Alors Laurent, qu'est-ce qui reste comme match?
Oui, alors du coup, la semaine dernière, je me suis fait reprocher qu'on était un petit peu hésitant sur...
On peut pas tout savoir.
On avait dit Carcassonne et Bagnoles, déjà, on avait dit deux.
Et Luc n'était pas là aussi. Hein.
Ouais. On n'avait dit aucune erreur finalement, mais c'est vrai qu'on était un petit peu
hésitant.
C'est vrai
qu'on n'avait pas dit tous les matchs, c'est vrai.
Donc du coup, je me suis dit, il faut rectifier. Le druide avait raison, il faut rectifier. Donc du coup, le 3 avril, match à Carcassonne. Le 10 avril, réception de Saint-Clément-Montferrier.
Victoire.
Le 17 avril, à Alberès-Argelès.
Albert-Argelès.
Allez, match nul.
Le 1er mai, donc Amende contre Aigues-Mortes.
Victoire.
Et le 8 mai, à Bagnoles-Pont pour le dernier match. Peut-être qu'on pourra y aller en tongue.
On est déjà champion.
Ouais, on ira en tongue. D'après ce que tu as dit, c'est gagné. Quoi.
Ouais, c'est gagné. Bon, mais c'est bien. Voilà. On est confiant.
Il y a une demi-finale de Coupe de la Région au milieu et peut-être une finale ou c'est après la fin de la saison, la finale?
Alors ça, on s'est posé la question la semaine dernière.
Ah, voilà. C'est là où on n'était pas au top et on ne l'est toujours pas.
L'année dernière, c'était
on avait dit Aurélien de s'enchaîner.
C'est généralement dans cette période de l'année, je crois. Hein, c'est vers le jeudi de l'Ascension.
C'est plutôt que nous, à la radio, on suit les matchs les uns après les autres. Donc du coup,
on est focalisé
sur la demi-finale.
De ce dimanche à 18h.
Vous êtes largué, quoi.
Bon, okay. Alors, on parle de Marvejols qui serait peut-être en finale. En attendant ce week-end, Marvejols, une belle victoire encore à Nîmes, Soleil-Levant, 2-0. Un doublé de Diallo, 7e et 85e. Dans le même temps, 7 et Béziers se sont imposés. 7 contre Vergès, 4-2. Et Béziers à Poussan, 2-0. Donc au classement, capitaine.
Alors, la réserve de 7, premier avec 63 points. La réserve de Béziers, deuxième avec 61 points. Troisième, Marvejols, 55 points. Et quatrième, Fabregue, 51 points.
Voilà, sachant que Béziers et Marvejols ont un match de moins.
De plus.
De moins que 7, un match de plus. Moi, je ne sais plus quoi dire sur cette équipe de Marvejols qui,
Marvejols a quasiment assuré sa troisième place derrière deux réserves, quand même, de clubs qui jouent en National et en CFA. Donc, ça montre quand même... la performance de cette équipe dans ce championnat de DHR. Alors que Nîmes Soleil-Levant, si on se souvient, il y avait eu un quart de finale de Coupe Garloser qui s'était arrêté à 2 minutes de la fin contre cette même équipe de Nîmes Soleil-Levant qui s'était joué en semaine à Marvejols. Il y avait eu une bagarre générale et l'arbitre avait arrêté le match. Et donc on a enfin le résultat. Et on avait peur que le district mette les deux équipes hors compétition. Et puis finalement, c'est Nîmes Soleil-Levant qui a été mis hors compétition. Donc la victoire 3-0 a été entérinée pour le club de Marvejols. Donc Marvejols est en demi-finale de la Coupe de la Région et en demi-finale aussi de la Coupe Garloser. Et ils vont recevoir, alors la date n'est pas fixée, la réserve d'Alès. Donc peut-être une future là aussi. Ils reçoivent, donc à domicile. Et donc l'autre demi-finale, c'est Nîmes-Gazelec contre Nîmes Olympique, la réserve. Donc, qui a éliminé le Buisson et qui joue en CFA2, qui est d'ailleurs première de sa poule en CFA2. Donc peut-être deux finales pour Marvejols. Alors la date, on ne la connaît pas parce que le district a mis à dimanche, mais comme dimanche, ils jouent en Coupe de la Région, donc ils ne pourront pas quand même jouer les deux. Donc on ne sait pas encore quand Marvejols va jouer cette demi-finale de Coupe Garloser. Et donc là, contre Nîmes Soleil-Levant, on aurait pu croire les esprits étaient plus apaisés d'après ce qu'on m'a dit. Et puis donc si Fadil est en tête des buteurs en DH, Diallo est en tête des buteurs en DHR, puisqu'à mon avis, il est autour de la vingtaine de buts, ce qui est tout simplement énorme performance.
Et Diallo, Rebolosso, Gourmas, serait pas mal. Hein
ah là, ça, en CFA2, c'est vrai que ça me ferait rêver. Hein.
Ouais. Alors, mauvaise opération ce week-end pour l'ENL qui perd 2-1 à domicile face à Yzeure malgré un but de notre ami Vivien Fontugne à la deuxième. Mais l'ENL, enfin bon, là il y a beaucoup de matchs en retard, etc. L'ENL qui n'est pas encore sauvé, mais qui n'est pas mal non plus, les cas.
Mais ils sont pas bien.
L'ENL est avant-dernier,
ils
donc.
Sont, ouais. 11-12e à peu près.
Ouais. Ouais,
donc,
bah, c'est,
ils sont pas très mal, mais ils sont mal.
Ils sont pas très bien. Non, c'est compliqué.
Pas super bien, quoi.
C'est compliqué avec tous ces matchs en retard, là. Par contre, ce qu'on peut dire et qu'on peut répéter, ils ont du mal à domicile. Hein. Et depuis.
Ce terrain, c'est ce synthétique. Ouais, hein,
depuis le passage au synthétique, genre, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet.
Depuis le reportage de Patrick dans la Lozère Nouvelle sur le nouveau terrain, ils ont tout perdu.
Ouais, juste pour préciser.
Oui. Laurent, c'est un pro des terrains, il va nous expliquer.
Voilà, que Lorient, notamment, qui a investi il n'y a pas très très longtemps sur un terrain synthétique, va changer et va repartir sur du terrain. Alors généralement, maintenant, mettre des pelouses. Hybride, voilà, un mâche fer, c'est le truc là.
Ouais. D'ailleurs, ils sont tous descendus du Nancy, ils sont descendus depuis qu'ils ont mis un terrain.
Oui, mais alors maintenant, on met beaucoup de terrains hybrides qui sont des espèces de. Qui sont pas des synthétiques, mais pas véritablement des pelouses non plus.
Ouais. Moi, j'ai joué sur de la terre toute ma jeunesse, j'aurais été content d'avoir un synthétique entre nous, mais bon.
Moi, j'ai joué sur un synthétique à Gramont, par contre, tu te fais des épilations des jambes, c'est terrible.
Mais tu tacles pas. Tu tacles toi.
Évidemment, tu tacles. Tu fais comment? Tu joues au foot sans tacler, toi.
Tu restes debout.
Non, mais il y avait un reportage.
Thiago Silva taclé, toi.
Non, mais tu parlais de Lorient, mais il y avait un reportage dernièrement où tu t'as rendu compte que le synthétique de Lorient est déjà complètement cramé. Et ce qui est totalement hallucinant, puisqu'il n'y a que la Ligue 1 qui y joue, il n'y a personne qui s'entraîne, il n'y a aucune autre équipe qui joue dessus. Et donc, en quelques années, en 3-4 ans, un terrain synthétique, donc dernière génération, donc le nec plus ultra du synthétique, eh bien, il est déjà complètement exposé, complètement foutu. Et donc, à le changer, ben, donc, Lorient va repasser à l'hybride, comme tu le dis. Ça paraît surprenant que cette éthique soit déjà foutue au bout de quelques saisons.
Allez, on finit avant notre pause musicale parce qu'on a vachement de choses à dire après avec notre spécialiste terrain, Laurent Julien.
Oui.
Non, tu es notre spécialiste.
Oui, c'est vrai. Non, mais je voulais juste revenir sur le match de l'ENL contre Yzeure qui avait très bien commencé puisque Vivien Fontugne avait marqué un but la deuxième minute et surtout ce but, il l'a marqué de la tête. Donc là, ils se sont dit, il peut rien nous arriver, quoi. Sauf que entre temps, d'après ce que j'ai lu dans le Midi Libre, ce que j'ai eu comme écho d'un des joueurs, l'arbitre a pas forcément été à la hauteur. Il leur a expulsé un joueur pour rien. Il a sifflé un penalty sur une main plus qu'improbable. Et donc ça a fait un peu déjanter le groupe. Et donc voilà. Mais sinon, après dans l'état d'esprit, ils ont fait un très beau match qui n'a pas été payant, comme vous venez de le dire.
Allez, Badarou, le résultat, Aurélien, on l'a eu ou pas?
Défaite de Badarou à Poux, 2-1.
Non, c'était à Badarou.
À Badarou, à domicile.
Contre Poux.
Ouais, c'est moi qui me suis trompé. Une petite chanson qui est choisie par, après la magnifique chanson de la semaine dernière, Luc, tu as loupé ça.
Eh oui, on m'a dit.
Tu n'as pas écouté le podcast?
Eh non, je n'ai pas eu l'occasion encore. Écoute-le. Mais j'écouterai. Hein.
Alors, juste la musique.
Pareil, vous avez balancé sur moi, donc j'ai écouté.
Ben, évidemment.
Quelqu'un m'a dit que...
Qu'est-ce qu'on écoute, Aurélien?
On écoute Price Tag de JCG. Donc j'espère que ma petite sœur Juliane, qui m'a envoyé un texto, parce qu'elle te remercie de parce qu'elle était très contente.
Ouais, mais là, elle va être déçue.
Que tu l'as cité. Donc j'espère qu'elle va autant apprécier que ça et j'attends son retour à la fin de la chanson.
Alors ça, c'est le jingle. Hein, pour les auditeurs, ce n'est pas la chanson. Allez, JCG, c'est de suite.
Moonheads and tea. You ready? Since In 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man. You can't put a price on the life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money. Money, money, money.
Eh ben c'est de mieux en mieux, hein. Bravo Aurélien Lacaze. D'ailleurs, on a reçu un message d'Alicia qui aime la chanson.
Voilà, mais merci Alicia, ça me fait plaisir.
Et oui, il en faut pour tous les goûts. Merci les gars. Donc la semaine prochaine, Patrick, tu choisiras une chanson. Et tu auras peut-être un message de Titi L de Midi Libre qui aimera la chanson proposée. C'est possible. Allez, le tirage au sort de la Ligue des Champions.
Ça fait marrer Luc.
Ouais. On va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions parce que c'était vendredi dernier. On a pas eu le temps, nous, de revenir dessus. FC Barcelone, Atlético de Madrid, de Bayern, de Munich, Benfica, Wolfsburg, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City. On va commencer par Paris, bien sûr. Messieurs, bon tirage pour Paris. Patrick ?
Bon tirage. À mon avis, Paris est favori. Paris va passer. C'est mieux de prendre, bien sûr, Manchester City que Barcelone ou le Bayern. Très confiant sur l'avenir de Paris dans cette coupe
aller à
de
Paris,
Ligue des Champions.
Aller à Paris, retour
et
là-bas.
Il peut y avoir des demi-finales tout simplement hallucinantes. Barcelone, Bayern, Paris et...
Madrid.
Après, ouais, Real, ouais. Voilà.
Qui veut... Oui, Luc ?
Ouais, et juste pour dire, hein, c'est que Manchester City qui a toujours pas récupéré son défenseur Vincent Kompany, qui a perdu son gardien ce week-end, qui a perdu la petite pépite, la Raheem Sterling, et qui a toujours pas récupéré Kevin De Bruyne, donc qui pourrait être très très diminué, notamment pour le match aller. Bon, il restera Kun Agüero.
Yaya Touré.
Yaya Touré.
Manchester qui a perdu le derby.
Et Manchester qui a perdu le perdu 1-0, qui a perdu tout espoir de revenir. Sur l'extraordinaire équipe de Leicester.
Et qui vont devoir lutter pour la Ligue des Champions. Parce
exactement,
que c'est pas gagné.
Exactement, c'est pas gagné du tout.
Ils peuvent pas faire l'impasse sur le championnat.
Bien sûr, voilà. Le seul petit bémol, c'est, on l'a vu un peu hier, comment Paris va gérer ces matchs-là. Alors, ils reprennent sur un rythme là, de match tous les trois jours, ce qui va peut-être leur convient peut-être beaucoup mieux.
Alors, c'est quand ce quart de finale ?
Le 5 avril, le mercredi. Avril, ouais.
D'accord, donc c'est deux semaines.
Le seul petit point nord pour Paris, c'est qu'ils vont jouer le match retour à l'extérieur.
C'est vrai.
Mais je pense que ça va pas les gêner considérablement.
Ouais.
Voilà,
comme celle-ci. Et savoir est-ce qu'ils vont récupérer Marco Verratti ou pas.
Ouais. C'est vrai quand même.
Et Serge Aurier.
Et Serge Aurier. Après.
Il a été très beau, NCFA,
Serge Aurier. Ouais. Après, Serge Aurier, quand tu vois les derniers matchs de Marquinhos. T'as pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Bon, apparemment, ça chauffe un peu là.
Avec Van der Ville.
Avec Van der Ville
et avec
Kurzawa, apparemment. Ouais. Voilà. Ibra a reproché à certains de ses coéquipiers, notamment les jeunes, à Kurzawa et compagnie, de surveiller leur fréquentation.
Ouais. Et puis surtout, City, il faut espérer que Sagna et Mangala vont jouer parce que c'est bon pour Paris.
C'est vrai que ce serait une bonne nouvelle.
Ouais. Est-ce que justement, c'est pas un match piège ? C'est un des premiers matchs où on comprend en quart de finale en se disant on est favori quand même.
Bon, franchement, je pense pas. Je trouve que Paris, bien sûr, a plus de maturité que les années précédentes. Et je vois vraiment un groupe parisien supérieur à celui de City.
Le gros match de ces quarts de finale, on est d'accord, Barcelone-Atlético ? C'est pas gagné pour Barcelone. C'était le tirage le plus difficile pour eux, je pense.
C'est vrai. Ça s'annonce serré, mais à mon avis, quand même, Barcelone va passer.
Ouais, je pense aussi. Ils ont eu du mal à Barcelone contre l'Atlético. Ils ont eu beaucoup de mal contre le PSV. Alors certes,
oui, au pénalty,
ouais, ils s'en sortent un peu miraculeusement au pénalty.
En championnat, en ouais, comme City d'ailleurs, qui s'est qualifié miraculeusement.
Oui, qui avait gagné 3-1 quand même à l'aller. Donc,
oui. Non, mais le PSV Eindhoven, ils étaient tous derrière. Alors qu'on sait que l'Atlético Madrid, c'est vrai qu'ils aiment bien avoir des équipes qui jouent pour pouvoir aller en contre. Donc ça va pas du tout être la même affaire.
Le PSV était à 10 derrière, donc c'est un petit peu. Mais bon, ils s'en sortent bien.
Parce que le PSV a tiré sur le poteau, donc ça aurait pu faire basculer le match.
Donc, c'est pas mercredi prochain, c'est celui d'après.
Non, parce que là, ce week-end, c'est les équipes de France.
Ah oui,
c'est la trêve pendant 15 jours. Donc, après, il y a une journée de championnat le week-end du 1er avril, 2 avril, 3 avril. Et donc, c'est de suite après.
Puis, il y aura des demi-finales de Coupe de France aussi. Oui. Un peu plus tard. C'est pas entre les deux.
Non, après, puisque tu
après
joues
le match retour.
Les matchs aller-retour, il y a une
semaine d'écart. Oui,
et donc, c'est après les quarts de finale.
Ouais, mais je pense que c'est un rythme qui convient mieux au PSG que d'avoir une semaine là.
On aura le temps de
parler. Puisque le gros match Sochaux-Marseille, c'est le 20 avril.
Ouais, c'est ça, énorme match. On parle de Manchester, juste un petit mot rapide pour dire que selon El País, le quotidien espagnol bien renseigné, l'entraîneur José Mourinho aurait signé un pré-contrat avec l'équipe anglaise de Manchester United. Un bon choix de Manchester ?
Oui, après un bon choix de Mourinho peut-être pas. Je trouve que Manchester... et un peu sur la pente descendante avec des recrutements qui ressemblent à rien. Et puis, je sais pas, j'ai pas l'impression que vraiment l'effectif de Manchester United soit si fort que ça. Il y a quelques individualités, mais
ils ont de l'argent,
au final, voilà.
On peut venir avec des joueurs.
Après, hein. Mourinho, on va voir qui va recruter, mais je trouve que Manchester, vraiment, comme tu l'as dit, à la puissance financière qu'ils ont, il y a une équipe qui est pas fantastique.
Et quand tu mets 80 millions sur Martial, même s'il est très bon, c'est fou. Quoi.
Ça reste quand même un gros pari à 80 millions quand même.
Ouais, gros pari. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien ?
Non, moi je voulais dire, c'est vrai que Manchester United est pas top en ce moment. J'ai pas l'impression aussi que Van Gaal soit l'entraîneur pour lequel les joueurs se battent. Ce qui peut changer avec Mourinho, à mon avis, il va réussir. S'il arrive à fédérer le groupe et à ce que les joueurs s'emploient sur le terrain pour lui, ça peut faire de belles choses, je pense.
Ouais, je trouve dommage qu'il donne pas sa chance à Ryan Giggs aussi, Manchester, avec un entraîneur du cru qui a l'air un peu élevé. Élevé à la sauce Ferguson, ça aurait pu...
Peut-être d'ailleurs, après.
D'ailleurs, Van Gaal qui va peut-être rejoindre Marseille l'année prochaine.
Ah, bah voilà. Vous éclatez à Marseille.
Ça sera pas pire.
Là, on meurt.
Non, mais pas pour jouer. C'est pas pour.
C'est une connerie. Je rassure. Je rassure les auditeurs. C'est une connerie.
Sérieusement, j'ai lu ce matin, c'est dans l'équipe, je crois, que Marseille est sur l'entraîneur de Guimaraes.
Bah oui, ils hésitent entre Guimaraes et Bourran-Péras.
Bourg-Péronas.
Non, Bourg-en-Péras.
Non, mais Sergio Conceição, qui a été un gros joueur, qui a joué à la Lazio, joué à Porto et qui a, je sais pas, peut-être 50 matchs ou 60 matchs en équipe Portugal.
Le problème, donc, c'est que Michel partirait, c'est trop cher pour qu'il parte là.
Actuellement, il partira à la fin de la saison.
On en parle de l'OM ou.
Non, c'est bon.
Ah, c'est dommage.
Peut-être qu'on reviendra.
On parle de Rennes peut-être.
De Rennes, non. Mais ouais, gros match brésilien à Marseille ce week-end.
On parle de Montpellier ?
On parle de Gianluigi Buffon, messieurs, parce que bon, il faut quand même le dire, juste une petite brève sur son match et le record d'invincibilité avec plus de 930 minutes sans le moins de but encaissé à 38 ans, 39 ans. Non, c'est ça.
Pas 970 ?
Oui, donc plus de 930, parce que l'ancien était à 930. Voilà. Donc il faut le dire quand même, parce qu'à 37 ou 38 ans, ce monstre du football qui est Buffon...
C'est un gardien légendaire. Hein. Voilà, quand on voit le match qu'il a fait encore en Ligue des Champions cette année, les deux matchs contre le Bayern...
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
Les handballeuses françaises iront à Rio après leur victoire contre le Japon 25-17 hier dans le tournoi de qualification. Donc voilà, bravo mesdames pour ce beau match. Spécialiste handball, Laurent, un mot sur cette victoire ?
Oui, bravo à l'équipe de Olivier Crumbles. déplaise à certains commentateurs autour de table, il a fait du bon boulot avec cette équipe et c'était mal engagé dans ce tournoi qualificatif, puis ça se termine très bien.
Ouais, je crois que certains d'entre nous ne sont pas d'accord avec toi, on n'ira pas plus loin.
Non, mais Luc a un document vidéo sur la vie d'équipe de France, il nous l'a fait regarder, vrai que c'est impressionnant, il hésite à le diffuser plus largement sur Internet, sa caractère privé, il va contacter l'avocat de Valbuena et de Benzema avant de pouvoir la publier.
Il connaît le milieu féminin du handball, Luc, sachez-le.
Et, hein, il connaît particulièrement...
Voilà. Le milieu de la nuit encore plus.
Il connaît particulièrement Cléopâtre, la gardienne... Dont il est friolant de ses charmes.
Ah, non, ses yeux, elle a des yeux envoûtants.
Ah, elle est très jolie.
Envoûtant.
Allez, rugby, fin du tournoi Destination. La France s'incline contre l'Angleterre, 31 à 21. D'ailleurs, l'Angleterre qui fait le grand chelem avec 10 points. On se retrouve avant-dernier avec 4 points. Quels enseignements à retirer de ce tournoi?
Énorme.
Il y a du travail, à accomplir, c'est le moins qu'on puisse se dire. Après, c'est bizarre parce que. Il y a quand même, tu fais 3 défaites, mais sur des matchs où tu as eu des occasions énormes de marquer des essais, et tu te rends compte que tu n'arrives pas justement dans ces moments clés à marquer. Et contre l'Angleterre aussi, il y a eu tout un tas de percées, de franchissements où en principe tu dois aller derrière la ligne, et puis il y a toujours quelque chose qui va pas, où tu te fais rattraper, il n'y a pas de soutien, où tu perds un ballon. Il y a eu des touches aussi dans les 22 mètres anglais que tu te fais prendre le ballon. Et donc ça t'empêche de faire une action positive.
On n'a pas été bon en touche hein, dans ce tournoi.
Voilà, mais c'est un peu, tu sais pas trop sur quel pied d'essayer parce que tu vois quand même que c'est mieux par rapport à ce qui était avant et au final les résultats sont plus que décevants. Et puis il y a certains postes, je pense Aurélien, tu seras de mon avis, il y a un manque cruel de talent et donc comment va-t-on faire pour trouver des joueurs un peu qui sortent de l'ordinaire, en particulier deuxième ligne, je trouve qu'on est faible, un pilier aussi, il y a des manques, un numéro 10, n'en parlons pas, centre aussi, comment faire pour trouver des talents, c'est un peu la question.
Ouais, c'est la question, c'est vrai que si on fait un petit peu le bilan du tournoi, les deux secteurs qui sont primordiaux dans le rugby, à savoir la conquête, la mêlée et la touche, c'est des secteurs qui ont été défaillants. Hein. Mmh. On a vu la mêlée contre l'Écosse et là, cette fois-ci, la touche contre l'Angleterre où ça n'a pas été terrible. Donc, comme tu disais, gros chantier en perspective. Tu dis qu'on a 3 défaites où effectivement, on franchit la ligne, etc. On loupe un petit peu à chaque fois la dernière passe où on fait le mauvais choix. Mais il faut dire aussi que les 2 victoires qu'on fait, c'est 2 matchs qu'on peut perdre aussi. Donc, on est aussi à la limite de la cuillère de bois.
Ouais.
Donc, mais après, sinon, j'ai l'impression que ça, qu'il y a quelque chose qui se met en place quand même.
Ouais,
comme tu le disais dans le jeu, quand même, on voit des étincelles des fois.
Luc veut parler de Cléopâtre.
Non, je veux parler de rugby.
D'ailleurs, Cléopâtre, elle joue avec des lunettes quand il est dans les gradins. Ouais. Quand tu y es pas, elle met pas ses lunettes. Et quand tu y es, elle met ses lunettes.
Même quand je suis pas,
c'est une femme à lunettes.
Non, mais c'est ça. Ça a des problèmes aux yeux, donc j'ai des lunettes.
Elle joue avec des lunettes de protection.
Elle est mauvaise pour la vue.
Après, j'ai pas compris.
Je te le dirai en
face. C'est de la protection.
Il est perturbé. Il est perturbé.
Sur le rugby, non, comme disaient Patrick et Auré. C'est dans la conquête. Si t'as pas une bonne conquête, tu peux difficilement aller jouer chez l'adversaire. En conquête, en lancement de jeu, c'est tous ces points-là qui font défaut aujourd'hui à l'équipe de France. Après, peut pas s'étonner hein, quand tu regardes que 75% des premières lignes du championnat de France sont constituées de joueurs non sélectionnables, tu t'étonnes pas que devant ta mêlée elle souffre,
évidemment,
que une grande partie des ouvreurs du championnat du top 14 sont aussi des joueurs non sélectionnables, ça devient compliqué. Après il y a des jeunes qui ont émergé dans cette équipe de France là, quelques anciens qui ont refait leur apparition. Je pense que voilà, Guinoves avait ses principes. Faut peut-être lui laisser un peu de temps avant de voir. On verra déjà les tournées de novembre, même si ça va pas être facile parce que je crois que c'est les Blacks qui viennent.
D'abord, tu as un joint, tu vas en Argentine.
Voilà, tu vas en Argentine, qui a jamais été facile.
Et
surtout,
facile,
ça va être un bon test pour la mêlée.
Et en novembre, tu fais les Blacks et l'Australie.
Voilà, les Blacks et les Australiens. Donc, deux tests, 3 tests qui vont être, à mon avis, très intéressants.
Alors, ce que je comprends pas, c'est que tu dis il faut laisser du temps à cette équipe de France.
Oui.
Cependant, l'équipe d'Angleterre a fait une Coupe du Monde, cataclysmique,
ouais,
comme
ouais.
Le dit Patrick, et puis se retrouve finalement à faire un grand chelem quelques mois après.
Pour moi,
comment ça se fait, quoi?
Moi, il y a une grosse différence.
Parce qu'ils n'étaient pas au fond du trou.
Voilà. Pour moi, il y a une différence, c'est que l'équipe d'Angleterre a raté sa Coupe du Monde, mais a de bons joueurs. L'équipe de France, tu te retrouves sur un concept où il te manque de joueurs. T'as pas un réservoir. Pour moi, un réservoir de joueurs suffisant et de qualité. T'as pas un talonneur. Prends l'exemple de talonneur. Il y a Guillaume Guiraudot qui fait un tournoi énorme. Le deuxième talonneur de l'équipe de France, c'est Camille Chat, qui a 20 ans, qui doit avoir une demi-saison en top 14. S'il se blesse, il n'y a pas de troisième talonneur. Enfin, l'équipe d'Angleterre a les joueurs qui jouent dans son championnat. Et la France, elle, a un championnat qui est très très fort, mais avec beaucoup de joueurs étrangers. Et énormément de joueurs non sélectionnables. La preuve, certains sont sélectionnables. Là, on est allé chercher Scott Spedding, on est allé chercher Bernard Leroux,
Vakatawa,
etc. Au final, je pense que c'est la différence entre l'Angleterre et la France. C'est que l'Angleterre a les joueurs, la France a le championnat, mais pas forcément les joueurs.
Moi, je vois une.
Et c'est un travail de fond qui commence.
Une autre différence, pour moi, très importante, c'est au niveau des coachs. Tu as un coach anglais donc, qui est arrivé et qui a un charisme incroyable. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que ce mec-là, il est capable de dire à un président de club, à un entraîneur d'un club anglais, aux dirigeants de la fédération anglaise, moi j'ai décidé ça, et maintenant vous allez faire ce que moi j'ai décidé. Alors Guy Novès aussi a un charisme énorme, mais à mon avis, il n'a pas cette liberté d'action et de jugement et de faire ce qu'il veut que le sélectionneur anglais, parce que même tout Guy Novès qu'il est, ben c'est les clubs qui décident. Et d'ailleurs, on l'a vu, Guirado a joué à Oyonnax entre deux matchs de championnat, alors que Guy Novès avait demandé au club de Toulon de le mettre au repos. Ben c'est les clubs qui décident. Et donc, le sélectionneur en France a un pouvoir hyper limité, y compris vis-à-vis de ses dirigeants. On l'a vu, hein, il convoque un ailier néo-zélandais, tout le monde à la fédération lui dit oh ouais, pas de problème, tu peux le prendre, et puis après il faut que ce soit la presse et le joueur quand il arrive en disant non mais attends, j'ai joué quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai joué un tournoi à 7, tout ça, je peux être pas sélectionnable. Alors après on vérifie et on se rend compte qu'il est pas sélectionnable. Bon, avec Eddie Jones, un truc comme ça, je suis persuadé que ça ne serait jamais arrivé. Et donc, ben, c'est compliqué en France, et même tout Guy Novès qui soit, c'est compliqué pour lui d'imposer, à mon avis, son point de vue.
Et les choses sont pas dans le sens de l'amélioration, hein, parce qu'on voit que les relations entre la Ligue et le secteur amateur, elles sont pas au beau fixe. Évidemment, tant que les clubs feront la loi, mais c'est leur intérêt, hein, c'est eux qui payent les joueurs, ça va être compliqué de faire des choses quand on voit tous ces doublons.
Quand j'entends Boudjelal, le nouveau projet de Boudjelal, une ligue européenne, c'est-à-dire fermée avec les meilleurs clubs et les meilleures provinces, ils font leur championnat, et un championnat du monde des clubs. Alors après, où est l'équipe de France et où est le championnat français? Ben dans l'esprit de Boudjelal, c'est vraiment à la ramasse, et c'est presque les équipes B qui vont jouer ce genre de compétition. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que ben voilà, le rugby à mon avis part quand même sur une mauvaise pente, parce que quoi qu'on en dise du football qui est souvent critiqué pour les millions d'euros et les dizaines de millions d'euros qui sont déversés sur ce sport à juste titre, mais le football quand même a réussi à préserver le football des pays. Et on va en avoir la preuve dans quelques mois avec le championnat d'Europe, qui va être un événement colossal où tous les meilleurs joueurs vont y participer. Et le rugby n'arrive pas à mettre ce rugby des pays en ordre, même s'il y a une Coupe du Monde qui a été super, on s'est régalé. Mais on voit qu'entre-temps, c'est quand même la dernière roue du carrosse.
C'est surtout la France hein, qui n'arrive pas à mettre son rugby dans l'ordre.
Très bien, messieurs, je me sens un peu comme le sélectionneur de l'Angleterre à vous proposer des thèmes tout puissants dans cette émission. Lundi prochain, je ne peux rien face à la religion, c'est le lundi de Pâques. Donc on ne sera pas là.
Tu n'y peux rien.
Il y a plus fort que moi.
Voilà. Les voix du Seigneur sont impénétrables.
Mais on se retrouve dans 2 semaines avec plein de résultats sportifs. Merci, ciao les gars, à bientôt.
Bye bye. Au revoir.
Salut. Leslie John au couloir en numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, t'as remarqué, je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du temps de l'apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du temps de l'apéro.
Allez lui.
Allez mon petit bonhomme.
Ouais. Oui, mon petit bonhomme. Bravo. Bravo.
On est au final.
Quarante-huit FM.